Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio FM+, en compagnie de notre invité Damien Farjoux pour la deuxième partie du portrait que l'on réalise. Bonjour Damien.
Bonjour Mathieu.
Ça va bien ?
Toujours. Et si... vous ?
Oui, très bien, merci. Alors, on parlait donc de votre parcours, du moment du diagnostic de l'ataxie de Friedreich, qui est, je le rappelle, une maladie, vous me corrigez si je me trompe, une maladie génétique. Il y a dégénérative et entre les deux, il y a un autre mot.
Neurodégénérative.
Ouais, merci. Neurodégénérative. Vivre sa maladie en étant sur Montpellier, est-ce que c'est un atout, selon vous ?
Question étonnante. Je ne dirais pas ça. Ce qui a été, au contraire, un avantage quand je suis arrivé sur Montpellier, c'est que j'étais encore considéré comme valide, entre guillemets, puisque je continue à marcher. Et donc, j'ai pu chercher un appartement, comme tout le monde, pas chercher un appartement dit accessible. On en reparlera peut-être, mais c'est compliqué de trouver un appartement accessible, peu importe où on est d'ailleurs. Donc j'ai pu trouver un appartement comme tout le monde, où on a cherché certains critères comme être proche de mon lieu d'études et aussi un appartement au rez-de-chaussée pour m'éviter des escaliers, parce qu'on savait très bien que ça allait être de plus en plus compliqué, même si à l'époque ça l'est encore. Et ce qu'on a bien fait, puisque cet appartement, je l'ai encore aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'il a une capacité d'adaptation que j'ai pu utiliser.
Il est à côté des facs, alors ?
Oui.
De la fac Paul Va ?
Oui, tout à fait. J'ai pu trouver un appartement à côté de la faculté Paul Valéry, ce qui m'a rendu un très grand service durant mes années d'études. Donc, est-ce que ça est un avantage? Moi, en fait, quand je suis arrivé sur Montpellier, c'est là où j'ai commencé à avoir de réelles difficultés par rapport à la maladie et par rapport à ses conséquences. D'avoir beaucoup moins d'endurance dans la marche, avoir plus de difficultés dans les montées, dans les descentes, de garder mon équilibre, parce que, en effet, on n'a pas expliqué les conséquences plus pratico-pratiques de la maladie. C'est des problèmes d'équilibre, des problèmes de mouvement, de coordination de mouvement, des soucis pour parler un tout petit peu.
Tout ce qui est en gros dirigé par le système nerveux.
Ce qui est dirigé par précisément le cervelet, parce que la suite du fonctionnement de la maladie, c'est qu'elle est donc génétique, qui atteint un gène dont la responsabilité de créer une enzyme qui s'appelle la frataxine et qui permet aux cellules nerveuses de s'équilibrer, de ne pas se détruire. Et précisément, les cellules nerveuses qui sont dans le cervelet, le cervelet étant un petit cerveau au-dessous du principal qui est le carrefour des informations en lien avec l'équilibre et la coordination de mouvement.
Et donc c'est cette enzyme qui fait défaut ?
Oui, c'est de réussir à intégrer l'enzyme dans les cellules nerveuses. Les niveaux de frataxine ne sont pas normaux, entre guillemets, encore une fois.
Et cette évolution dans le temps de l'ataxie de Friedreich, elle est différente pour chacun, non ?
Oui, tout à fait. C'est très, très personnel. L'évolution est différente pour tous, ainsi que l'âge où on est diagnostiqué. À la base, il faut savoir que c'est une maladie infantile, donc c'est à la base des enfants. Moi, ça a été à 17 ans, donc c'est déjà relativement tard, mais d'autres personnes, c'est encore plus tard. C'est 25 ans, c'est 30 ans, c'est même 40 ans.
J'avais lu 40, oui.
Donc au final, c'est très très différent de chacun. Il faut réussir à faire ce qu'on peut avec les capacités qu'on a, ne pas trop regarder autrui, encore une fois. Comme tout le monde, finalement.
Se regarder soi-même et l'état d'esprit, alors j'y reviens, on en a parlé un petit peu dans la première émission, l'état d'esprit que l'on adopte face à la maladie, il est, je dirais, déterminant. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous ?
Ouais, comme je disais au début, j'avais pas l'impression de faire de réels efforts. Pour moi, c'était juste moi. Et quand je suis arrivé à Montpellier, par contre, avec les premières réelles difficultés, là, j'ai commencé à comprendre ce que voulaient dire les efforts par rapport à la maladie. Donc, ça a été des difficultés à marcher, de marcher moins droit. Principalement. Après, c'était toujours des difficultés à écrire, mais par chance, en faisant des études en jeux vidéo, c'est plutôt l'ordinateur qui prime. J'ai pu réussir à me déplacer comme tout le monde durant ma licence, mon master. Et il y a eu un changement au début de mon année de master 2. En 2013, où là j'ai pris l'initiative de m'organiser avec des amis de promo pour m'aider à me déplacer de mon lieu de vie jusqu'à la salle de classe, résidence universitaire Verbois, et donc qui faisait un maigre détour par chez moi m'aider, où je me déplaçais en lui tenant simplement le bras, en étant il était mon pilier, en fait, finalement. Je compensais mon manque d'équilibre avec le sien, et j'ai pu aller en cours toute l'année grâce à lui, ce que j'en remercie beaucoup. Et tous les gens qui m'aident aussi de manière plus ou moins ponctuelle, ce qui arrive plutôt régulièrement. Et
la question sur l'état d'esprit, du coup, ouais, on zappe.
Mais en fait, la question de l'état d'esprit, c'est juste que je me suis adapté. En fait, j'ai juste senti qu'il y avait un mal et que fallait le résoudre comme ça. Je savais que je pouvais plus être en sécurité dehors, tout seul. Donc, j'étais accompagné. Voilà ce qui m'est venu plutôt naturellement. Ce qui m'est après pas venu naturellement, c'est après mon année de Master 2, où moi, je n'avais pas encore eu mon diplôme. J'ai redoublé, où je devais écrire mon mémoire et où les autres personnes de promo, certains ont eu le mémoire, d'autres l'ont pas eu, mais dans tous les cas, le groupe s'est splitté, on va dire. Et chacun avait des choses à faire dans sa vie, de nouveaux projets, et donc avait moins de temps pour m'aider. Et c'est là où s'est entamée une période plutôt difficile, où je me suis plus ou moins retrouvé enfermé chez moi.
D'accord. Pendant combien de temps ?
Je dirais un an, peut-être.
Après le Master 2 ? Le deuxième Master 2.
Après ma première année de Master 2, donc à partir de 2014, où des choses ont changé, je n'ai pas réussi à m'adapter aussi rapidement que ce que je voulais. Pendant un an, je continuais à uniquement sortir lorsque des amis à moi étaient disponibles pour m'aider, ce qui s'est fait quand même assez régulièrement. Mais de plus en plus, je ressentais un besoin de sortir plus et d'être frustré de ne pouvoir pas être autonome, de ne pas pouvoir être autonome. Et c'est là au pied du mur, donc ça a duré un an quand même. C'était une période plutôt difficile où il a fallu lutter entre la réalité. Donc ce manque d'autonomie, qu'il fallait faire quelque chose, et aussi l'acceptation en fait de la maladie, de son évolution, et que évidemment je ne voulais pas ça, Évidemment, je ne voulais pas ça. Mais en 2015, j'ai finalement, enfin 2015, début 2015, j'ai commencé à faire les démarches auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour faire l'achat d'un fauteuil roulant.
D'accord.
Voilà, ce que évidemment je ne voulais pas au prime abord, mais petit à petit il a fallu se lancer dans le grand bain parce qu'on a des préjugés, des a priori, et bon, ça a été un peu long parce qu'il y a eu des essais de fauteuils roulants. Il y a plusieurs types de fauteuils roulants, fauteuil manuel, fauteuil à assistance électrique, fauteuil électrique.
C'est un peu comme les voitures, hein, y a plusieurs options.
Tout à fait, exactement. Donc ça a été assez long. Le choix a été fait en juin 2015 et j'ai eu mon fauteuil qu'en fin novembre 2015. Donc ça a été un peu long. Pardon. Et dans un même temps, j'ai pu commencer, c'est là qu'a commencé plus ou moins mes engagements, on en a parlé plus tôt. J'ai pu faire la rencontre d'une ergothérapeute de l'ABF, l'Association des paralysés de France, qui m'a conseillé à propos du fauteuil roulant, à propos des aménagements dans mon appartement, à propos des différentes possibilités qui existaient, comme le SAVS, Service d'aide à la vie sociale, auquel j'ai pu faire une demande. Et via cette demande, en fait, de SAVS, j'ai pu rencontrer une autre personne de l'ABF avec qui j'ai discuté mes projets, etc. Et fin 2016, cette même personne me recontacte pour me parler d'un dispositif de l'ABF qui s'appelle Affinity, qui est un dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, ce qui m'a permis de rencontrer une troisième personne de l'ABF qui est venue me rencontrer chez moi. Et ensuite, les rendez-vous se passaient à la délégation de l'Hérault rue Saint-Priest, où j'ai pu rencontrer l'ensemble des personnes y travaillant. Et c'est là où j'ai pu me renseigner à propos du bénévolat, être adhérent, ce que ça voulait dire, ce qu'il faisait, comment je pouvais m'impliquer. Petit à petit, j'ai testé des choses, j'ai participé à leur groupe de jeux de société, leur groupe de parole.
On aura, pardon, je vous coupe Damien, on aura l'occasion d'y revenir. Et c'est un petit peu après cette période d'incertitude suite à la fin des études et d'isolement, vous avez pu réenclencher un certain nombre de choses et repartir sur une nouvelle dynamique, notamment via l'engagement. On aura l'occasion d'y revenir après une pause musicale que vous avez choisie, fidèle à notre habitude. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'annoncer, s'il vous plaît ?
Oui, tout à fait. Il s'agit de The Metal de Tenya Huos D.
Très bien. Donc, un morceau de métal tout de suite sur Radio FM+. À tout de suite.
Metal will live on. Punk rock tried to kill the metal, but they failed as they were smacked to the ground. New wave tried to kill the metal, but they failed as they were stricken down to the ground. Grunge tried to kill the metal. They failed as they were thrown to the ground. Foes of the metal, we try to win for why we do not know.
New wave tried to destroy the metal, but the metal had its way. Grunge then tried to dethrone the metal, but metal won.
metal.
De retour sur Radio FM+, en compagnie de notre invité Damien Farjou, que j'ai le plaisir de recevoir pour un portrait en deux émissions, où il nous a parlé de la taxi de Friedrich, et surtout de lui, de son parcours, du moment du diagnostic à l'âge de 17 ans jusqu'à ses études et puis ses projets. Et donc on en est là. Les projets professionnels, l'engagement auprès de l'APF, l'Association des paralysés de France. On commence par quoi ?
Tout commence à l'APF, justement, en début 2017, où je découvre le bénévolat auprès de l'Association des paralysés de France, la délégation de Montpellier, où j'ai pu prendre part à divers événements, comme de la vente de brioches, pour aider l'association, parce qu'il faut savoir que ces associations vivent principalement de dons. J'ai pu prendre part à de la sensibilisation scolaire dans des écoles primaires ou à l'université. Et comme je disais avant la pause, j'ai pris part à un dispositif d'accompagnement à l'emploi qui s'appelle Happinity, donc réussir à travailler un profil professionnel pour percer dans le monde du jeu vidéo, parce que je n'ai jamais perdu cette ambition. Après, même si j'ai fait un détour par le bénévolat, j'ai eu de la chance aussi d'y avoir fait un service civique d'une année, de octobre 2017 à octobre 2018, où j'ai pu faire du community management.
Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, pardon, le nom de la structure d'accompagnement pour l'emploi auprès de laquelle vous avez fait le service civique ?
Happinity.
Happinity, d'accord.
Happinity, qui est un dispositif intégré à l'Association des paralysés de France, qui s'est modifié aujourd'hui, qui existe autrement, mais il y a toujours un service d'accompagnement en emploi au sein de l'APF.
Donc un service civique, community manager ?
Tout à fait, où j'ai été principalement community manager. J'ai pu aussi créer ma chronique au sein de leur blog, qui s'appelle La Petite Chronique de Damien. J'ai pu continuer à prendre part aux événements de sensibilisation scolaire, de m'y investir, de chercher à les innover. Et dans un même temps, j'ai pu aussi découvrir des choses à propos du handicap, de ressentir le regard des gens. J'ai pu parler durant mon évolution de ne pas marcher droit. La plupart des gens me regardaient comme si j'étais en état d'ébriété. J'ai pu expérimenter ce genre de choses, et depuis que je suis en fauteuil roulant, encore plus, des désagréments très réguliers, que ce soit au niveau du regard des autres ou de malencontreux événements comme des rampes de bus qui ne fonctionnent pas, comme des gens qui ne savent pas s'ils doivent rire ou s'ils doivent nous admirer, pardon, ou pleurer. Je pense qu'ils ne rigolent jamais, à part quand je dis des blagues, et ça c'est autre chose.
Oui, il y a un peu cette dichotomie au niveau de la vision, si je me permets, vous me corrigez, des personnes en situation de handicap par les personnes dites valides. Soit elles sont cataloguées, stigmatisées en tant que héros, ou alors ce sont un peu des pauvres petites choses qui font de la peine, quoi.
Oui, tout à fait. J'ai pu expérimenter plein de choses auquel je ne mettais pas de mots dessus, ce qui était très frustrant. Et le jour où j'ai découvert le mot validisme a été le début de quelque chose pour moi, puisque c'était un mot, je peux aujourd'hui mettre un mot sur plein de choses qui m'arrivent durant mon quotidien.
On parle de validisme, pardon, ou de capacitisme aussi en anglais, ou même, même si vous me disiez que le terme, vous ne l'aviez pas trop entendu, d'andiphobie aussi, voire d'anticaphobie, pour désigner un petit peu cette discrimination, en fait.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que ça m'a motivé aussi à continuer à me renseigner sur ce domaine, qu'est le handicap, parce que c'est pas parce que je suis une personne dite handicapée que j'en suis expert et que je sais absolument tout. J'ai lu des livres de philosophie, de personnes en situation de handicap, de lire des articles comme des personnes comme Elisa Rojas.
Une militante pour
tout à fait
l'égalité,
tout à fait fondatrice du CLE, enfin co-fondatrice. Il y a aussi un philosophe, Marcel Nuss, qui est lui-même en situation de handicap, qui a écrit plusieurs livres, dont certains en partenariat avec le philosophe Pierre Ancet. Eux qui ont sont des livres très intéressants et qui ont pu continuer à nourrir mes interrogations sur le handicap.
Et je précise d'ailleurs certaines références que vous m'avez fait connaître, Damien, et je pense que tout le monde pourrait s'y intéresser. Ce serait bénéfique à toutes et à tous de lire ces écrits-là, en fait, pour ouvrir son regard.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on peut reconnaître quelque chose. C'est la transversalité du handicap et que finalement elle n'est pas si loin de chacun, que le fossé entre personnes handicapées et personnes dites valides n'est pas si énorme que ça, et qu'on trouve des points communs sur des statuts comme le statut de la femme, comme le statut... Malheureusement, je l'ai oublié, mais il y a des comparatifs à faire entre différents
types de handicap,
différents statuts.
Et le fait de s'entourer, de se mettre en réseau, notamment par des voies d'association, d'avancer et de faire avancer les choses.
Oui, tout à fait. C'est une manière de se re-sociabiliser, de créer de nouveaux projets aussi, d'accepter, je pense. C'est aussi pour ça que je créais... des projets autour du handicap, d'une manière, parce qu'il me semble que c'est important, parce qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui.
Et notamment un projet original donc, dont on va parler maintenant, si vous voulez bien, qui est les émissions radio.
Oui, sur Radio FM Plus. Tout à fait, j'ai pu connaître l'exercice de la radio l'année dernière avec Radio Campus Montpellier, où j'ai eu la chance de participer à une table ronde sur l'accessibilité du jeu vidéo. Encore une fois, on y revient, le jeu vidéo est toujours là, il n'est pas parti. Et auprès d'une deuxième émission, toujours Radio Campus Montpellier, donc les deux émissions sont Amalgam et Devon Retry, où j'ai eu la chance de faire des émissions sur l'accessibilité du jeu vidéo. Et aujourd'hui, j'ai la chance de réitérer l'exercice ici à Radio FM+. Je vous en remercie pour l'invitation et ce qui me donne l'envie de créer ma propre émission de radio autour du handicap, parce que en effet je parle de ma vie, je parle de plein de choses, mais je pense pas qu'on ait le temps de ratisser tout ce qui est possible sur le handicap en une heure ou en deux émissions. Je pense que chaque thématique du handicap, chaque petit détail mérite une émission.
Il y a matière, il y a beaucoup de matière, oui, pour produire du contenu.
Oui, tout à fait. Je pense que cette matière, elle n'est pas utilisée à bon escient encore aujourd'hui. Elle est réutilisée par les médias toujours de la même manière. Donc, vous l'avez pu dire toujours de manières différentes, soit comme héros, soit comme...
misérable.
Voilà.
C'est un terme d'Elisa Rojas. Hein.
Tout à fait. Et je pense qu'on peut faire plus.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit avant-goût de quelques détails sur lesquels vous allez vous allez développer au cours des différentes émissions?
On a un peu parlé en fil rouge tout au long de ces missions parce que je les ai vécues moi-même. On va essayer d'en parler au plus que ça touche le plus de monde possible, puisqu'il y a des phases obligatoires comme le diagnostic, le regard des autres, la famille, les relations, que ça soit amicale ou amoureuse, la sexualité, l'accessibilité. Donc l'accessibilité peut être multiple, ça peut être l'accessibilité à la ville, l'accessibilité à la campagne, l'accessibilité aux loisirs, l'accessibilité à la culture, l'accessibilité aux jeux vidéo.
Au sport.
Au sport. Donc là, je crois qu'on vient déjà de dire 10 thématiques qui mériteraient chacune une émission.
Et on avait parlé éventuellement peut-être aussi, pourquoi pas, de refaire un vivre ensemble. On en avait déjà fait un avec Guylaine Dubois, la directrice de Radio FM+. Pourquoi pas autour de la masculinité? Parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse.
Oui, tout à fait. Un sujet qui m'intéresse personnellement, où des podcasts comme Les Couilles sur la Table ou The Boys Club existent.
On peut retrouver sur YouTube.
Tout à fait, qu'on peut retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à taper sur Google. Et je pense que ça m'intéresse beaucoup parce que je ne pense pas être dans une masculinité typique. Et malheureusement, encore aujourd'hui, personne n'a eu les couilles, justement, de parler de masculinité en étant handicapé.
Mmh. Et ben oui, et donc en ouverture, je dirais ceci, c'est que c'est vrai que dans une société majoritairement dominée par le profil de l'homme hétérosexuel, valide, ça peut être intéressant de faire une table ronde sur la question de la masculinité, notamment la masculinité auprès de personnes qui sont dans certaines minorités. Ça peut être la situation de handicap ou bien sinon l'homosexualité par exemple. Et on aura l'occasion, je pense, d'y revenir et je serai intéressé aussi pour participer à cette table ronde. Pour l'instant, on va se quitter. Damien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Tout le plaisir était pour nous et pour moi, en l'occurrence, qui a eu la chance de pouvoir vous interviewer. Et j'ai hâte de pouvoir écouter sur Radio FM+, votre série d'émissions très, très bientôt. On a déjà un nom ou pas encore? Est-ce qu'on peut le dire?
Oui, je pense qu'on peut le dire. J'ai Dear Valid People, en référence à la série Netflix Dear White People. Ceux qui connaissent comprendront.
Très bien, bon entendeur, on a hâte d'en savoir plus. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur Radio FM+, et à très bientôt. Au revoir Damien.
Au revoir.